Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le président de la République invite les leaders politiques, religieux et socioculturels, ainsi que tout le Congolais, à privilégier la cohabitation pacifique entre les communautés. C'est pour parier à la montée du discours de haine et du tribalisme dans la sphère publique. Il a dit hier au Conseil des ministres. Le maire intérimaire de la ville de Butembo alerte sur une menace d'attentat à la bombe. Il exige désormais un contrôle systématique dans tous les lieux publics, notamment les marchés et les églises, afin de parer à toute éventualité, surtout en cette période festive des Pâques. La République démocratique du Congo co-organise les travaux préparatoires de la COP 27 avec l'Égypte. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal le professeur Joseph Longunza Malassi. Il est conseiller climat de la vice-première ministre de l'Environnement et Développement Durable. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Montée du discours de haine et du tribalisme dans la sphère publique depuis un certain temps en RDC, le président de la République invite les leaders politiques, religieux et socioculturels, ainsi que tous les Congolais, à privilégier la cohabitation pacifique entre les communautés. Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit hier, vendredi, au cours de la 49e réunion du Conseil des ministres. Il a rappelé qu'en se référant à l'histoire de notre pays, chaque montée en puissance du discours tribaliste s'est toujours soldée par l'écoulement du sang des Congolais et la destruction de l'unité nationale. Par ailleurs, le chef de l'État a instruit plusieurs ministres, notamment celle de la justice, pour avoir un arsenal de mesures légales afin de réprimer les auteurs de messages tribalistes. On écoute le ministre Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement.
Le président de la République a ainsi lancé un vibrant appel aux leaders politiques, aux responsables religieux, aux forces vives de la société civile, ainsi qu'à tout bon citoyen congolais, à s'investir davantage pour favoriser une interpénétration ethnique positive qui est une richesse nationale pour le pays et un rempart contre son émiettement. Le président de la République a attiré l'attention du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, de la ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, du ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, ainsi que de la ministre après le président de la République, afin qu'ils puissent chacun, dans la limite de ses attributions, travailler pour, d'une part, avoir un arsenal de mesures légales répressives envers les auteurs de l'incitation à la haine et au tribalisme, et d'autre part, d'encourager les initiatives telles que l'organisation des dialogues intercommunautaires en y associant les chefs coutumiers et développer de projets culturels, associatifs et sportifs intégrateurs qui renforceront la cohésion sociale, l'esprit patriotique et l'unité nationale.
Toujours au cours de cette réunion du Conseil des ministres, le Premier ministre condamne l'assassinat aux États-Unis d'Amérique de Patrick Liyoya, d'origine congolaise, cette semaine par un policier au cours d'un contrôle de routine. Jean-Michel Samalukonde l'a dit donc au courant de cette rencontre. On écoute une fois de plus le ministre Patrick Muyaya.
Le Premier ministre chef du gouvernement a condamné avec force le lâche assassinat par un policier blanc aux États-Unis d'un citoyen d'origine congolaise nommé Patrick Liyoya, sans arme lors d'un contrôle de routine. Il a précisé que l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à République démocratique du Congo a exprimé à notre vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, les vifs regrets ainsi que les condoléances de son gouvernement suite à cet acte ignoble. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique a rassuré le gouvernement de la République que tout est déjà mis en œuvre par son pays pour que le policier, auteur de cet assassinat, soit sévèrement sanctionné conformément aux lois américaines en la matière.
Dossier signé Alain Irung. Au Nord-Kivu, le maire intérimaire de la ville de Butembo exige désormais un contrôle systématique dans tous les lieux publics, notamment les marchés et les églises, afin de parer à toute éventualité sécuritaire, spécialement en cette période festive de Pâques. C'est au regard des menaces sécuritaires dont attaque la bombe qui pèse sur la ville, indique-t-il. Il a lancé cette alerte à travers un communiqué rendu public hier vendredi à Butembo. Le commissaire supérieur principal, Moa Baeki Teli Roger, ainsi que la coordination urbaine de la société civile, appellent la population à ne pas céder à la panique et à vaquer librement à ses occupations tout en demeurant vigilant. Grâce à Samuzati.
Le maire intérimaire de la ville de Butembo affirme avoir reçu plusieurs alertes venues de la ville de Beni sur une probable attaque terroriste vu la proximité entre les deux villes, d'où il annonce la mise en place d'un contrôle systématique par les services de sécurité dans les lieux de grande influence, notamment les hôtels, marchés et églises. Cette disposition prise spécialement pour que la fête des Pâques se déroule en toute quiétude pourra toutefois continuer après la dite fête. Le commissaire supérieur principal Moaba Ikitele Roger.
Vous savez que au niveau des églises, il y a de forts attroupements et les gens ne se contrôlent pas. Raison pour laquelle nous avons lancé cette alerte pour que les dispositions soient prises pour qu'on ne soit pas surpris. Tous les services sont sensibilisés et ont commencé d'ailleurs à occuper les différents emplacements. À partir des entrées, il y aura des fouilles de sacs et on va empêcher ceux qui ne voudront pas obtempérer pour que rien arrive aux fidèles. Que la population se tranquillise. Cette disposition a été prise pour qu'elle sache que nous sommes là pour y veiller.
Cette mesure est saluée par la société civile de la ville de Butembo. Van Germain Katiwa, son premier vice-président, invite la population à ne pas paniquer, mais plutôt à demeurer prudente en collaborant avec les services de sécurité. Butembo, Grâce, Amzati, Radio Kapi.
En Ituri, 2 personnes tuées, 17 maisons et 3 véhicules transportant des produits pétroliers incendiés. C'est le bilan encore provisoire de l'attaque la nuit dernière attribuée aux ADEF dans le village de Bandi Pété, à 15 km de Commanda Centre dans le territoire d'Irumu. Selon des sources sécuritaires, ce malfrat qui fuit les opérations militaires cherche à tout prix à se réorganiser dans cette zone. La société civile locale s'inquiète de cette recrudescence de l'activisme de ces ADEF sur cet axe Mambasa Kisangani, considéré plus sécurisé dans la région. Martial Kizabiamongo.
Une dizaine de rebelles des ADEF en provenance de la forêt des Kandoï se sont introduits à Bandi Pété, aux environs des 20 terres locales, à tirant des coups d'effet dans toutes les directions. Des sources sécuritaires rapportent qu'ils se sont introduits dans des maisons d'habitation. Selon des témoins, ces rebelles qui parlaient les Kiswahili Bora et l'anglais menaçaient des morts les occupants avant de mettre feu à 17 maisons. Sur la route nationale numéro 4, 3 camions citernes qui se rendaient des Bounia pour Kisangani et 4 motos été brûlés par ces rebelles. Des personnes, dont les chauffeurs de l'un des camions incendiés qui seraient des nationalités somaliennes et un habitant, ont été tués par balles et des autres sujets maliens emportés en brousse. La société civile locale parle de la 3e attaque des ADEF enregistrée dans la même maison en espace de 5 jours, ce qui crée des inquiétudes parmi la population. Les commandants des opérations de FRDC, un commandant et l'administrateur du territoire d'Iromo se sont rendus sur le lieu de l'attaque ce matin. C'était pour renforcer la présence des forces de sécurité dans cette zone pour la protection de quelques habitants qui y restaient encore. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
On retourne au Nord Kivu. La population de Beni est appelée à collaborer et à soutenir le FRDC dans la recherche de la paix dans cette région qui fait face à l'activisme des groupes armés, notamment les ADEF. C'est le général-major à la retraite, Joseph Mouloubibine Mouemedi, conseiller du ministre de la Défense nationale et ancien combattant en charge des opérations civiles ou militaires, qui l'a dit ce vendredi. C'était au cours de sa rencontre avec les professionnels de médias de la ville de Beni. Pour lui, c'est cette collaboration entre les civils et les militaires qui permettra de retrouver la paix recherchée. Le général-major à la retraite, Joseph Mouloubibine Mouemedi, explique au micro d'André Kitenge.
Les opérations civilo-militaires, c'est une structure qui met ensemble les militaires et les civils à la recherche d'un objectif. Et l'objectif présent ici, c'est la recherche de la paix. Cette situation ne s'est pas tellement détériorée, mais on a constaté qu'il y a eu relâchement. Relâchement de ceux qui doivent faire ces métiers-là. Raison pour laquelle la hiérarchie a trouvé bon de nous envoyer pour essayer de redynamiser cette structure-là. Le message est de demander à la population civile de continuer à soutenir son armée. Et surtout, en ce moment critique, dont la situation n'est pas bonne dans un coin du pays, et la population civile doit nécessairement accompagner son armée dans le cadre de la recherche de cette paix que nous sommes en train de courir derrière. Ce que je peux demander pour le moment, c'est une franche collaboration entre la population civile et les militaires, parce que nous sommes tous les fils de ce pays. Et nous n'avons pas des pays, nous n'avons pas un autre pays, nous avons que la République démocratique du Congo comme pays.
Le général-major à la retraite Joseph Mouloubibine Mouemedi est en tournée dans cette partie du pays pour échanger sur les relations civilo-militaires avec toutes les couches de la population. Et puis, cette bonne nouvelle dans la province du Maniema, le gouvernement central vient de répondre au plaidoyer du gouvernement provincial face aux familles affectées par le conflit communautaire à Kayuyu en novembre dernier. Les vivres et autres matériels non alimentaires ont été remis hier vendredi au gouverneur par les membres de la délégation du ministère national des affaires humanitaires en présence d'un délégué de l'inspection générale des finances, Florence Kizalunga.
Cette assistance du gouvernement central est constituée d'un lot de matériaux de construction, des outils ménagers, des kits scolaires, de médicaments et de vivres. Le chef de la délégation, Bokele Vava, explique.
Le ministre en charge de l'action humanitaire a dépêché sur place une équipe qui a travaillé pendant 3-4 jours avec le comité ad hoc sur place pour que nous puissions disponibiliser ces articles alimentaires et non alimentaires afin que nous puissions aller assister nos compatriotes. Je vous le remets à titre symbolique à votre qualité de l'autorité de la province.
Au nom de la population, le gouverneur intérimaire remercie les chefs de l'État.
Au nom de la population du Maniema, nous remercions l'appui du gouvernement national. Il est pour nous un motif de satisfaction et de remerciement que nous venons d'adresser à l'autorité suprême qui a écouté les cris d'alarme de la population du Maniema à ce qui s'était survenu au niveau de Kayuyu, le conflit communautaire. Aujourd'hui, nous venons de recevoir un important lot de matériel, de vivre, nos vivres, des tôles pour essayer un peu de reconstruire les maisons qui ont été incendiées.
Afan Idrissa Mangala promet d'acheminer lui-même cette assistance à Kayuyu. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Autre nouvelle, à l'occasion de la journée mondiale de l'art célébrée le 15 avril de chaque année, il s'est ouvert hier vendredi 15 avril le sommet artistique et entrepreneurial organisé par le Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu. Une activité qui va se dérouler sur 3 jours, soit du 15 au 17 avril. C'est là en collaboration avec les artistes et entrepreneurs de Bukavu. La manifestation a lieu dans la salle Bodega de l'hôtel Résidence dans la commune d'Ibanda. Objectif, partager d'opportunités qu'offre la RDC aux entrepreneurs et artistes. Il y a également exposition des talents des artistes et produits des entrepreneurs. Plus de détails avec Rachel Kessimbangu.
Les jeunes sont appelés à travailler ensemble pour mieux évoluer en se soutenant les uns les autres. C'est ce qu'affirme Joëlla Sambo Neima, présidente du Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu.
Il y a beaucoup de jeunes artistes. Leur talent meurt en eux. Sans pour autant que ça soit exposé, que les gens puissent les appuyer. Et nous sommes dit pour sensibiliser la communauté, tant locale, nationale, internationale, pour que le jeune artiste et jeune entrepreneur soit accompagné par les membres de notre communauté du Sud Kivu. Pourquoi pas au niveau national, au niveau international.
Ce sommet représente pour les artistes de Bukavu et pour ceux venus des territoires, une plateforme d'opportunités et de partage d'expériences. Justin Forever, artiste musicien de Bukavu.
C'est une journée, en fait, qui nous rappelle, nous, en tant qu'artistes, du talent que Dieu nous a donné. Aussi, dans les sommets qui est organisé aujourd'hui, peut nous permettre, nous, artistes, à se rencontrer avec d'autres partenaires pour essayer un peu de mobiliser les gens pour qu'ils nous appuient.
Signalons que plusieurs artistes musiciens, danseurs, slameurs, cinéastes et humoristes se produisent sur scène et ce jusqu'au dimanche 17 avril. Bukavu, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
Dans la province de l'Équateur, l'ONG Groupe d'Action pour Sauver l'Homme et son Environnement est à la croisée des deux processus d'aménagement du territoire. L'un dans le cadre de la réforme avec le programme Intègre et l'autre dans la planification de l'aménagement du territoire avec quelques terroirs villageois. Ce qui explique la table ronde provinciale multi-acteurs de 2 jours ouverts ce vendredi à Mbandaka. Paul Richard Malengela.
La première édition de cette table ronde provinciale, ont indiqué les organisateurs, vise à mobiliser les différents acteurs à faire un état des lieux du processus de l'aménagement du territoire à l'Équateur. L'avantage est de s'imprégner du processus et d'en faciliter la conduite harmonieuse sur le terrain, mais aussi le renforcement des capacités des parties prenantes, tant au niveau provincial que de la communauté. Autres bien fondés, les participants, dont une cinquantaine d'acteurs étatiques et non étatiques, vont établir ensemble un bilan global d'avancement du processus, ainsi que les différentes réalisations en ces jour. Joe Black Ingila, animateur communautaire du GACH, revient sur l'état des lieux de l'aménagement du territoire à l'Équateur.
Avec la RFN, nous avons élaboré déjà le plan simple d'aménagement du territoire du groupement Ngélé dans le territoire de Lukolela. Et dans le cadre du projet PIRET, avec la composante aménagement du territoire, nous avons 6 plans simples d'aménagement du territoire déjà élaborés dans le secteur des Elanga. Comme ça, quand chaque secteur a son espace et qu'il n'existe pas de superposition, pas de conflit foncier, c'est en ces moments-là qu'il y a un développement qui arrive. Voilà que l'économie de la province va être boostée.
Au cours de l'atelier, ce samedi, à l'issue des travaux en groupe et avant la clôture, il sera question de tirer des leçons constructives des expériences sur terrain. Bondaka, Paul Chamalingué, la radio Okapi.
Actualité internationale.
Le navire marchand transportant 750 tonnes de gazole était parti d'Égypte pour rejoindre Malte. Il a coulé ce samedi 16 avril dans le golfe de Gabès, au large de côte sud-est de la Tunisie, indique un porte-parole du tribunal local. L'équipe a été évacuée et les autorités surveillent le navire dans la crainte d'une fuite de sa cargaison. Et puis, les 3 astronautes de la mission Shenzhou 13 sont rentrés samedi sur Terre après 6 mois dans la station spatiale chinoise, le plus long séjour dans l'espace jamais effectué par la Chine. C'est ce qu'a annoncé la chaîne de télévision d'État CCTV.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est le professeur Joseph Longunza Malasi, conseiller climat de la vice-première ministre de l'Environnement et Développement Durable. Il s'exprime sur la co-organisation des travaux préparatoires de la COP27 avec l'Égypte. Le professeur s'entretient avec Alain Hirong. Suivez.
Professeur Joseph Longunza Malasi, bonjour.
La RDC va co-organiser avec l'Égypte les travaux préparatoires de la COP27. Qu'est-ce que cela représente pour la RDC dont les forêts représentent le 2e poumon de la planète après l'Amazonie?
Tout d'abord, j'aimerais faire un rectificatif. Lorsque vous comparez les forêts de la RDC aux forêts de l'Amazonie, l'Amazonie, sur le plan superficiel, a certes plus d'espace que le bassin du Congo et la RDC. Mais les études récentes, notamment les études entreprises grâce à la tour à flux de Yangambi, ont démontré par l'université de Gand de Belgique, ont démontré que à l'hectare, les forêts du bassin du Congo séquestrent plus de carbone, en l'occurrence 1,7 tonnes à l'hectare, comparativement aux forêts du bassin de l'Amazonie qui, elles, séquestrent environ 1,2 tonnes à l'hectare. Donc là, c'est quelque chose de très significatif qui convient de souligner et de le ressouligner. Sommes-nous le premier bassin, le second bassin? Oui, en termes de superficie, nous sommes le second. Mais en termes de potentiel de séquestration du carbone atmosphérique, le bassin du Congo est un puits extrêmement puissant et aujourd'hui, le monde entier l'a reconnu. Mais aujourd'hui, la RDC est fière d'avoir obtenu le quitus mondial, bien sûr en passant par la République arabe d'Égypte, de co-organiser les travaux préparatoires de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Alors, ce que ça représente à la RDC, premièrement, c'est le leadership affirmé environnemental. Deuxièmement, comme vous le savez, lorsque vous avez le monde entier dans vos murs, parce que c'est ce dont il sera question. La RDC, pendant quelques jours, sera l'attraction du monde. Nous aurons dans nos murs les ministres de l'Environnement de toute la planète. Et donc là, c'est une opportunité pour le pays pour faire son propre marketing. Et lorsque un pays fait son marketing, il n'y a pas de limite. La limite, c'est le ciel. C'est à nous de pouvoir nous définir les grandes lignes. Qu'est-ce que nous voulons dire au monde?
Alors, professeur, qu'est-ce que la RDC, qui se veut pays solution, va apporter en termes d'expertise pour la réussite de ces travaux préparatoires?
J'aimerais préciser que ce n'est pas le pays organisateur qui impose sa vision, mais le pays organisateur ou le pays co-organisateur offre le cadre. Et donc, en offrant le cadre pour que les réunions se passent, étant organisateur ou co-organisateur, vous avez une certaine dose d'influence par rapport aux sujets qui sont traités parce que vous êtes dans la cabine de pilotage lorsque les préparatifs sont faits. Donc, ce que la RDC apportera, en dehors de contribuer à l'appui de la position africaine et de la position des pays les moins avancés en termes d'adaptation au changement climatique, climatique. La RDC, avec son équipe d'experts qui est très performante, la RDC va faire entendre la voix du bassin du Congo et, dans une certaine mesure, ensemble avec l'Égypte et les autres États de l'Afrique, la voix de l'Afrique, surtout pour les questions ayant trait à l'adaptation au changement climatique.
Pour terminer, professeur, les COP, c'est-à-dire conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, se multiplient et semblent malheureusement se ressembler selon certains experts, puisque selon ces derniers, la plupart des résolutions restent lettres mortes. Qu'est-ce que la RDC pourrait apporter en termes d'impulsion dans ses travaux préparatoires pour que la prochaine COP 27 soit différente des précédentes?
Bon, d'abord l'affirmation de dire que les COP se ressemblent et ne font pas avancer le débat climatique, je ne suis pas de cet avis. J'ai étudié les négociations climatiques, je vous ai dit que c'était ma spécialité. Et donc, si par exemple aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons les contributions déterminées au niveau national, la CDN, vous en avez certainement entendu parler. Si aujourd'hui nous en sommes arrivés à ce que toutes les nations du monde puissent déployer des efforts pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est bien parce que la dynamique internationale, la nébuleuse climatique internationale, à travers les conférences des parties, est en mouvement. Ça bouge. Certainement que ça bouge pas autant qu'on l'aurait souhaité, ou ça ne bouge pas autant que l'urgence climatique l'aurait dicté, mais il faut quand même reconnaître que les efforts ont été faits.
Professeur Joseph Lungunza Malasi, merci.
Voilà, c'est la fin de cette édition mise en onde par Alain Ngoyi, coordonnée par Pierrot et la Mégie, sous la supervision d'Alain Irung. Merci de nous avoir suivis.